Et il est 19h, presque 23.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Il fallait bien que ça arrive. Hein. Les taux d'intérêt sont en train de remonter autour de 1,5 pour un prêt sur 20 ans contre 1,1 il y a quelques mois seulement. Avec l'inflation, ce n'est guère étonnant, mais source de stress pour ceux qui cherchent avec un budget à flux tendu, c'est-à-dire à peu près tout le monde. La conséquence la plus immédiate également, ce sont des prêts refusés ou des acheteurs, surtout des primo-accédants, les plus jeunes, qui tombent un peu de leur chaise. Ils avaient un accord de principe et puis ils ne l'ont plus. C'est peut-être votre cas. Vous allez nous le dire. Ça veut dire aussi peut-être limiter la durée des prêts à 25 ans, voire moins. Ça veut dire surveiller les mensualités. Parfois, ça veut donc dire renoncer. La question, c'est est-ce que cette hausse des taux veut dire baisse des prix? On posera la question à nos invités. Peut-être que ça veut dire aussi plus de négociations. Peut-être que ça veut dire qu'il faut désormais arriver avec un apport plus important. Bref, on y est et apparemment, c'est que le début. Il n'y a aucune raison pour que les taux s'arrêtent de monter. C'est ce que disent les spécialistes. La condition, c'est de savoir jusqu'où. On la posera bien sûr cette question, nous aussi. On verra ce que ça veut dire également pour les investisseurs, parce que même si eux ont peut-être plus d'argent que vous, ils vous louent votre logement et les conséquences, bien sûr, elles sont multiples. C'est la discussion que nous avons ensemble ce soir. Soyez les bienvenus dans le téléphone sonne.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et une fois n'est pas coutume, tiens, c'est sur franceinter.fr qu'on va aller chercher la première question ce soir. C'est celle de Mathilde qui est à Aix-en-Provence et qui dit précisément: j'ai fait un dossier financier en vue d'acheter un appartement en septembre dernier. J'ai enfin trouvé un appartement, mais désormais la banque fait des difficultés pour m'accorder mon prêt, à moins d'ajouter 20 000 euros d'apport supplémentaire, et je n'ai pas cet argent. Je trouve ça scandaleux, dit-elle. Je n'ai aucun recours et je me heurte à un mur. On va vous présenter les invités avant de répondre à cette question, mais celle de Mathilde nous résume bien la situation du moment. J'en ai peur. Bonsoir Maëlle Bernier.
Bonsoir Fabienne Sintès.
Porte-parole de meilleurtaux.com. Je vous vois faire oui avec la tête en écoutant la question de Mathilde. Bonsoir Jean-Marc Thorillon.
Bonsoir.
Vous êtes président de l'AFNAIM. Merci tous les deux d'être avec nous. Maëlle Bernier, on la met sous verre, Mathilde, en quelque sorte, parce qu'elle est en ce moment pile dans ceux qui ont de quoi se faire du souci avec cette hausse des taux.
Pile parce qu'elle dit qu'en gros, elle a fait un calcul d'enveloppe, ce qu'on appelle un calcul d'enveloppe au mois de septembre pour voir combien elle pouvait emprunter. On lui a annoncé une somme. Je rappelle qu'au mois de septembre, on avait des taux qui étaient sous la barre des 1%. Mmh. Et évidemment, aujourd'hui, on est plutôt à 1,5, voire même à 1,60, 1,65. Et donc, les 20 000 euros qu'on lui demande en plus, c'est pas de l'apport, en fait. C'est pour compenser ce qu'elle ne peut plus emprunter. Et évidemment, on arrive à la situation où les plus jeunes, ceux qui n'ont pas de soutien familial, qui ne peuvent pas en avoir, qui n'ont pas d'épargne, et ben ça coince. Et évidemment, c'est l'effet, ne serait-ce que bêtement mathématique. Hein. C'est-à-dire que les taux remontent, vous pouvez emprunter moins. Donc, si vous n'avez pas la réserve de côté, ben ça passe plus.
Est-ce qu'il faut conseiller à Mathilde de revenir à la négociation, en fait? Parce que le corollaire, c'est aussi celui-là, quand même. Parce que c'est pareil pour les acheteurs comme pour les vendeurs. Donc, est-ce qu'il faut revenir à la négo?
Alors, à la négo sur le bien, vous parlez? Ouais. Alors, tout dépend du bien. Parce que si c'est des sur un bien avec extérieur, enfin, vous en parlerez mieux que moi, mais les biens avec extérieur, ils baissent pas. Globalement, c'est des appartements qui baissent, mais qui n'ont pas d'extérieur. Donc, ça dépend ce qu'elle achète. Il est clair qu'entre le moment où elle a commencé sa démarche et aujourd'hui, je pense qu'il y a...
C'est plus le même marché, en fait.
Il y a 0,80, à mon avis, de taux entre ce qu'on lui avait annoncé. Donc, c'est énorme. Je ne connais pas le dossier en particulier,
bien mais
c'est très logique. Ça, c'est ce qu'on voit tous les jours.
Qu'est-ce qui baisse, alors que Jean-Marc Thorillon, aujourd'hui? Parce qu'on dit effectivement que la mathématique et l'équation, c'est celle-là. Les taux montent, d'accord, mais enfin, les prix baissent. Qu'est-ce qui baisse, en fait? Parce que si vous me dites, c'est ce que j'ai lu ici et là en préparant cette émission, que ce qui baisse, c'est les biens les plus moches, en gros, mais tout ce qui est encore beau, qui a de la valeur, ne bouge pas, vous allez nous désespérer.
Bon, écoutez, il n'y a pas grand-chose qui baisse, honnêtement. Nous, on a fait un petit point au 30 avril. Globalement, vous n'avez, à part Paris et quelques premières villes de province, mais sur le dernier trimestre, on est encore avec une hausse globale en France de plus 2,1%, plus 7,9% en 12 mois glissants. Donc, il n'y a rien qui baisse. Et on constate par ailleurs toujours une baisse de l'offre disponible. Et la baisse de l'offre disponible, elle peut avoir deux causes. Bien sûr, un marché toujours très orienté vers une dynamique de forte demande, ou bien des vendeurs qui, au regard de l'inflation et peut-être des projets un petit peu différés par la situation économique, sont attentistes. Ce qui est important dans la situation de votre auditrice, c'est les 20 000 euros supplémentaires. Ouais. Parce qu'en fait, alors c'est certes pas de l'apport, mais c'est néanmoins un apport supplémentaire, en fait, lié évidemment à un financement qui se réajuste. Et ma plus grande, notre plus grande crainte, pour être clair, et on le voit, ce sont en fait les taux d'apport exigés aujourd'hui par le secteur bancaire et qui participent, au-delà même des taux, à désolvabiliser une partie de nos acquéreurs.
Donc ça veut dire, pardon, hein, c'est l'expression habituelle, on ne prête qu'aux riches, et de plus en plus, c'est ça que ça veut dire en fait, Maëlle Bernier.
Alors moi, pour moi, c'est pas les banques qui demandent plus de taux d'apport, c'est vraiment un effet, qui demandent plus d'apport, c'est vraiment un effet compensateur, c'est-à-dire que elle pouvait peut-être emprunter, j'ai pas les chiffres, 200, et puis aujourd'hui on lui dit c'est plus que 180, sauf que le bien qu'elle a visité sur un coup de cœur, il est à 200. Donc on lui a dit, est-ce que vous avez les 20 000 quelque part ? Il est vrai que les banques, aujourd'hui, le minimum, c'est d'avoir ce qu'on appelle les frais annexes. Ça, faut les avoir,
frais de notaire, etc.
Mais au-delà de ça, si votre dossier est finançable et que vous dépassez pas les 35% d'endettement, ça passe. C'est pas les banques, encore une fois, qui disent on veut plus d'apport, c'est vraiment l'effet compensateur. Malheureusement, c'est vrai que ceux qui revendent un bien, ceux qui sont un peu plus âgés, ceux qui ont pu épargner, c'est pas grave, 15-20 000 euros, c'est pas grand-chose. Pour quelqu'un qui a beaucoup épargné, qui a 45 ans, on parle toujours beaucoup de l'épargne pendant le Covid, en disant les Français ont beaucoup épargné. La vérité, c'est que c'est les CSP+, qui ont épargné beaucoup, parce qu'évidemment, ils ont arrêté de consommer, de sortir et de voyager. Mais les autres, ils ont juste continué à vivre normalement. Donc, c'est juste pour dire que c'est pas, encore une fois, c'est pas une nouvelle exigence des banques, c'est un effet mathématique pur de les taux qui ont pris au moins 50 centimes.
Donc, je suis pas tout à fait d'accord.
Allez-y, je vous en prie, tant mieux, Jean-Marc Thorion.
Je pense que les taux d'apport moyens que nous constatons aujourd'hui sont de l'ordre de 16%, et c'était pas tout à fait le cas auparavant. Et moi, je pense que le taux d'apport exigé par les banquiers aujourd'hui, c'est la prime de risque sur un retournement du marché. Ça a toujours été ça. Alors, je pense que votre raisonnement est évidemment juste. En tout cas, ce qui remonte nous très fort aujourd'hui, c'est ça, plus un problème sur le taux d'usure.
Alors ça, c'est la cerise sur le gâteau.
Je suis un peu plus nuancé, si vous me le permettez.
Je vois ce que les banques demandent. En réalité, je vois effectivement des Français qui vont chercher dans leur épargne pour compenser la baisse de l'emprunt.
Et ce qui est certain aussi, c'est que du coup, il faut avoir une concomitance absolue entre sa démarche financière et son projet, ce qui rend techniquement plus difficile les choses.
Ça veut dire qu'il faut refaire, c'est ce qu'il faut conseiller peut-être aux gens qui nous écoutent, ça veut dire qu'il faut refaire sa démarche financière régulièrement pour être sûr de voici où j'en suis, en fait.
Là, aujourd'hui, c'est vraiment... c'est-à-dire que même la démarche financière, c'est un peu horrible ce que je vais dire, mais qui est faite en mai, là, est-ce qu'elle sera encore valable en juillet ? Faut vraiment prendre une grosse marge. C'est-à-dire que si on vous dit c'est 200 au taquet, faut plutôt partir sur 190, parce que les taux vont continuer à remonter.
Quand vous dites, Jean-Marc Thorion, ça n'a pas baissé pour l'instant, est-ce que ça veut dire que il faut attendre un peu, ça viendra, mais évidemment les choses ne sont pas concomitantes, donc ce que ça veut dire, c'est si on a de l'apport, si on cherche à acheter un bien, on va attendre un petit peu, comme ça les prix vont baisser, ou est-ce que non, en fait, de toute façon, sur les biens qui marchent bien, ceux qui circulent, ça ne baissera jamais, malgré cette situation-là?
Il faut bien comprendre la situation du marché français aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons, il y a trois composantes dans le marché pour moi. Il y a les taux, il y a l'effet revenu de ceux qui veulent se porter acquéreurs et les prix. Nous avons eu jusqu'à maintenant un effet revenu et un effet taux qui a compensé largement la hausse des prix. Pas partout, pas dans les grandes villes de province, pas à Paris, mais remarquable, qui a même donné du pouvoir d'achat, c'est pour ça qu'on a une embellie, dans tous les autres secteurs, notamment les villes moyennes et les secteurs ruraux. Et donc aujourd'hui, pour l'instant, l'effet taux n'est pas encore suffisant pour avoir un impact sur la désolvabilisation massive d'une demande. La demande reste là. Moi, je pense toutefois que l'exercice, effectivement, va avoir une limite, mais le retournement du marché, en tout cas aujourd'hui, nous ne le constatons pas, d'autant que avec l'inflation, en fait, on a plutôt un flux d'investisseurs très intéressés de placer de l'épargne dans l'immobilier, qui a toujours été très protecteur de l'inflation. Et moi, je vois même des banques inciter, là je l'ai vu récemment sur un dossier, à placer de l'épargne au fond, puisque cette épargne-là, qui est en train de se dégrader rapidement avec l'inflation, trouve sa protection dans l'apport.
Mais si ce sont les... Parce que moi, je pensais le contraire, j'avais même une question là-dessus, je pensais que les investisseurs avaient au fond le plus à perdre en ce moment-là, y compris parce que derrière, il va bien falloir mettre ses logements en location. Vous nous dites l'inverse, en fait. Au contraire, c'est pour les investisseurs, c'est le bon moment.
Écoutez, vous avez un marché, vous empruntez, quoi qu'on en dise, largement en dessous de l'inflation, donc vous êtes en taux d'intérêt négatif, si on fait des raisonnements financiers. Vous avez une épargne aujourd'hui qui est moribonde et que vous placez en immobilier pour la protéger de l'inflation. Et vous avez, quoi qu'on en dise, une rentabilité brute qui va aller de 4 à 5%. Donc là, actuellement, nous n'avons pas de problème, si ce n'est parfois par le financement, avec les fameuses règles, fameuses règles du HCSF, vous y reviendrez. Mais j'allais dire, l'attractivité, pour le coup, n'est pas un sujet.
Léa est avec nous. Bonsoir, Léa.
Bonsoir.
On vous écoute, Léa. Allez-y.
Oui. Alors, en fait, moi, je suis dans une situation. Donc là, avec mon compagnon, nous souhaitons acheter. Le problème, c'est qu'on voit en fait l'évolution de la situation. Et ce qu'on se demande, nous, c'est combien de temps est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va continuer à augmenter? Et est-ce qu'on peut avoir un peu une vision à long terme pour nous pouvoir prendre notre décision?
Merci beaucoup, Léa. Heureusement que vous ne voyez pas la tête de Maëlle Bernier parce qu'elle est en train de faire je la vois bien faire. Non, visiblement, ça va pas s'arranger. C'est ça que je lis sur votre visage.
Écoutez, en fait, on a aujourd'hui effectivement une augmentation rapide, mais qui n'est pas terminée, parce qu'il faut se rappeler qu'elle est liée à l'augmentation des taux directeurs. Les taux directeurs, c'est le taux que les banques empruntent. Et il y a encore début janvier, on était sur des taux négatifs. Aujourd'hui, on est à 1,50 en moyenne.
Mais il paraît qu'on emprunte à 1,50 et on nous prête à 1,50.
C'est ça.
Donc pour l'instant,
je vais vous donner juste un chiffre pour vous donner une idée de perspective. La dernière fois qu'on a eu des taux directeurs, ces fameuses OAT, les obligations du Trésor à 1,50, on avait des taux à 3% en face. Donc on ne peut pas rester dans la situation. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui empruntent aujourd'hui, vous avez raison, à 1,60, même à 1,70, à 80, en fait, ils vont derrière plutôt s'enrichir parce que l'inflation redémarre. Et en plus, on est sur du taux fixe. Mais il ne faut pas attendre d'embellie ou de baisse des taux d'ici la fin de l'année, c'est absolument pas envisageable.
Et alors, même s'il n'y a pas d'embellie, j'imagine qu'à un moment ça va s'arrêter. Alors vous allez évidemment pas pouvoir nous dire à quel moment, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que ça redescendra aussi, ou on se dit que parce qu'on en a fait des émissions ensemble, Maëlle Bernier, en disant c'est quand même dingue, les taux sont tellement bas, ça va pas durer longtemps. Donc à un moment ou un autre, est-ce qu'on se dit que même si ça s'arrête à un moment, ça ne redescendra pas? Est-ce qu'on on doit se projeter là-dedans ou pas, l'un comme l'autre,
Jean-Marc? On va se projeter sur des taux plus classiques, autour de 2,5, 3. Enfin, ça paraît assez logique avec l'inflation et la montée des taux directeurs. On sait que la Banque Centrale Européenne, dont le but, rappelons-le, est quand même de lutter contre l'inflation au départ, a déjà annoncé que les taux allaient remonter au mois de juillet, je crois. Donc, l'environnement de taux qu'on a connu en fait à 1%, voire en dessous de 1, c'était assez anormal en fait. On va revenir dans un schéma
bien.
Ah oui, c'était bien. Et puis tous ceux qui ont emprunté à ces taux-là, ils sont vraiment tranquilles pour l'hiver, puisqu'ils ont des taux fixes. Mais les gens qui ont un projet, les Français qui ont un projet, et qui sont sur des types de biens qui ne baissent pas vraiment. Enfin, on voit, moi j'habite en région, donc je vois ce qui se passe. Moi j'habite au Mans. Au Mans, les maisons avec jardin, ça s'envole. Et ça part très très vite. C'est pas forcément le cas des appartements, mais donc ça dépend quel type de bien on cherche. Mais sur les biens avec extérieur, la situation ne va pas s'améliorer, puisque même s'il n'y aura pas baisse des prix.
Donc Jean-Marc Torlion, à Léa qui vient d'appeler, Monsieur le président de la FNAIM, vous dites quoi? Il vaudrait mieux que vous trouviez maintenant, sinon ça va devenir compliqué. Qu'est-ce qu'on lui dit quand on est primo-accédant comme elle?
Eh ben, quand on est primo-accédant, je pense qu'il faut toper les meilleurs taux maintenant. C'est même une opportunité. Pourquoi? Parce que si Léa réussit à toper un taux, effectivement, aller même à 2, à 2,5, dans le cadre d'une inflation qui est peut-être un petit peu durable au-delà de 2,5 et 4, elle va mécaniquement se désendetter. Et je ne crois pas qu'il faut attendre un effet prix durable. D'autant que chaque fois que les prix baissent, c'est pas là que les acquéreurs se précipitent. Un acquéreur est toujours rassuré par une évolution positive du marché par rapport à son investissement. Donc, je trouve qu'on est là sur un moment assez intéressant. La seule chose, c'est qu'évidemment, on a aujourd'hui une activité économique globale qui est bonne, un chômage qui est bas. Et c'est vrai que tout ça concourt aussi à une certaine forme de confiance. Et le moteur du marché, c'est aussi ça.
Mais est-ce que les taux vont rattraper l'inflation ou ça, c'est pas possible?
Moi, je suis pas devin. Il ne me semble pas que l'intérêt de l'État français, c'est d'avoir des taux d'intérêt à 4 ou 5%.
Même pour eux.
Est-ce que vous pouvez faire ce calcul pour notre ami Jean-Pierre sur franceinter.fr pour emprunter 150 000 euros, par exemple, sur 25 ans? Du coup, aujourd'hui, quel salaire doit-on avoir? Est-ce qu'on peut faire ça, au doigt mouillé ou pas?
Ah, on peut faire ça sur meilleur taux, très bien. Mais alors là, au doigt mouillé, 150 000 sur 25 ans?
25 ans ou 15 ans ?
25
alors
ans.
Là, 25. D'ailleurs, tiens, je vous pose là une question en plus derrière celle de notre ami. Est-ce qu'on emprunte toujours sur 25 ans précisément ? Voilà. Est-ce qu'on...
Oui, on ne dépasse pas, sauf pour le
on dépasse pas. Mais ça, pour le coup, c'est pas nouveau, non ? On est d'accord avec ça.
C'est HSF, ça a 2 ans.
Donc on emprunte toujours sur 25 ans.
On peut toujours emprunter sur 25 ans. Et je vais vous même dire, il y a même beaucoup, la plupart des gens empruntent sur 25 ans puisque la durée moyenne d'emprunt, elle a quasiment 22 ans. Donc ça veut dire que vous avez un énorme, et c'est normal, paquet de primo-accédants qu'emprunte sur 25 ans.
Mmh. Mais finalement, quand les taux sont bas, vous avez tout intérêt à emprunter le maximum sur la durée puisque ça participe de la solvabilisation. Parce que le coût financier finalement de cette opération, il est certes plus important que sur 20 ans, mais finalement vous avez un pouvoir d'achat qui est accru. Il me semble que 150 000 sur 25 ans, je pense que globalement...
moins de 2 000 euros, ça passe.
Voilà, voilà.
Moins de 2 000 euros de salaire net, quoi. Ouais.
Pierre est avec nous. Bonsoir, Pierre. Pierre, est-ce que Pierre est là ?
Non, je suis directement au téléphone.
Oui, vous êtes directement au téléphone et vous êtes même directement à l'antenne. Pierre, on vous entend ?
Oui, tout à fait.
Allez-y, on vous écoute.
Oui, c'était pour témoigner par rapport aux échanges qui sont en cours. Alors, moi et ma femme, on est en train de vendre notre maison sur l'île. Je trouve déjà que les prix de vente sont fous. On est dans un quartier qui est en pleine gentrification parce que plus personne ne peut acheter dans les prix. Elle a pris 70 000 en 3 ans. On l'a acheté en 2019, on est en 2022. Mmh. Et aujourd'hui, on est en train de revendre parce que ma femme a trouvé un emploi dans le sud. Et aujourd'hui, les acquéreurs commencent à négocier pour des prix à la baisse. On mettait en vente sur un prix de marché qui nous avait été estimé à 250 000. Et aujourd'hui, les propositions de négociation, elles sont à 235, 240. Enfin, voilà. On n'achète plus au prix non plus avec cette justification de l'augmentation des taux, avec des primo-accédants qui ne peuvent plus acheter. Et néanmoins, 250 000 euros pour des primo-accédants, c'est aussi des sacrées sommes pour des petites maisons de 80 mètres carrés.
Mais du coup, vous, en vendant votre bien, Pierre, et quand on vous dit il va falloir baisser parce que les taux ont augmenté, voilà ce que je vous propose, est-ce que vous dites oui, je comprends, et vous baissez, ou est-ce que vous attendez le suivant ?
Du coup, on a baissé un peu, parce qu'on estime que 70 000 de marge en 3 ans, on en reste quand même gagnant.
Eh ben bravo, Pierre.
Oui, je faisais remarquer.
C'est un argument, ça. Non, pardon, Jean-Pierre Thorion. Pardon, je vous ai interrompu.
Oui, moi je faisais remarquer que Lille était une des premières villes de province qui commençait un tout petit peu à baisser. Il faut pas en tirer des conclusions hâtives. En même temps, on voit là un vendeur qui est raisonnable, qui a conscience du gain qui est exceptionnel et qui ajuste. Et il a raison de le faire tout de suite à la demande son prix. Je crois que c'est très bien et c'est aussi comme ça que le marché du secondo-accédant peut fonctionner. Il y a quand même un élément sur lequel il faut faire maintenant très attention, c'est le classement énergétique des biens. Et de ce côté-là, on a aussi des banquiers qui sont de plus en plus prudents.
Oui.
Et j'allais dire, la valeur verte, elle va émerger.
Parce qu'ils savent qu'on va devoir faire les travaux de toute façon parce que ça deviendra obligatoire et qu'il faut donc d'emblée savoir qu'on va devoir sortir une certaine somme. C'est ça que ça veut dire ?
C'est ça que ça veut dire. Et c'est pour ça que les 20 000 euros dont on parlait justement, ces 20 000 euros-là, ils vont manquer à un moment donné pour assurer des travaux. Et c'est peut-être là qu'on a, à mon sens, une question à se poser.
Il y a déjà effectivement dans les banques, les biens qui sont mal classés ou qui sont, dont on sait qu'il va falloir effectivement mettre en gros 800 euros par mètre carré pour refaire les fenêtres, la chaudière, enfin tout ce qui fuit, tout ce qui ne va pas. Ils sont déjà décotés, mais on le sait, on le voit. Après, c'est évident que c'est très important le futur DPE et tout ce qui va avec.
Parce qu'on sait que la loi et les futurs DPE, effectivement, vont vous obliger à avoir une certaine lettre, puisque c'est ABC des EFG. Oui. Donc ce sera d'abord G. D'abord, et ensuite, ça va monter un peu. Ça, c'est le cas si vous louez votre logement. Est-ce que c'est le cas aussi si vous êtes propriétaire de votre logement ?
Non, il n'y a aucune interdiction, c'est ça le paradoxe, d'occuper un logement indécent énergétiquement. En revanche, d'ici 2025, vous ne pourrez plus louer un logement classé G.
C'est ce que je veux dire. Mais si vous l'occupez, vous pouvez attendre longtemps avant de faire les travaux.
Sauf que n'oublions jamais que la location, le fait de pouvoir mettre son bien en location, c'est toujours une solution défensive pour un propriétaire, même occupant. Vous pouvez être muté, vous pouvez avoir un problème de divorce. Et le fait que demain, quand bien même vous occupez un logement que vous ne destinez pas à la location, se priver de cette faculté de le faire, c'est un handicap et ça sera un handicap.
Il y a une sorte de suite à la question de Pierre il y a un instant. C'est Jonas sur l'appli qui nous dit « Bonjour, j'ai été muté, je dois vendre ma maison vers Poitiers. Est-ce que vous pensez que je dois vendre à un prix plus faible pour vendre rapidement et éviter d'avoir à racheter un bien trop cher ensuite ? » Donc en gros, est-ce qu'il doit accélérer le mouvement
Je crois que Poitiers ne fait justement partie des villes qui sont plutôt en train de prospérer et qui vont plutôt en phase ascendante. Donc je suis pas sûre qu'en l'occurrence, après chacun gère son budget, mais je pense que il va vendre cette maison. Enfin Poitiers,
moi je suis pas inquiet parce que vous avez raison. Quand on voit des villes comme Angers, Poitiers, c'est typiquement ce genre de ville qui a connu une embellie exceptionnelle post-Covid.
Qui partait de bas.
Et donc qui peut être, il faut pas délirer, mais il peut être solide sur ses prétention.
Mais l'embellie post-Covid, justement, dont vous parliez, pour des villes, je vais appeler ça des villes TGV, parce que c'est ça que ça veut dire, ça. Le Mans en fait partie aussi, TGV, exactement, ce sont des villes TGV. Est-ce que cette embellie-là s'arrête, recule, disparaît un peu avec la hausse des taux, ou est-ce qu'on est toujours dans la même dynamique?
Pour l'instant, enfin moi, ce que je constate, c'est que ça se dément pas, parce qu'il y a une arrivée de quand même, il y a des mouvements de population qui n'étaient pas forcément anticipés par ces villes moyennes, qui voient arriver quand même des acheteurs qui arrivent avec des pouvoirs d'achat qui sont quand même plutôt assez confortables. Et les villes TGV sont en direct, puisqu'en général, c'est plutôt des CSP+, qui peuvent faire du travail à distance. Donc, tout va avec et tout va bien pour qu'ils puissent maintenir ce marché un peu élevé, quoi.
Moi, je confirme, même s'il faut le marché français, 1 178 000 logements, ce ne sont pas que des cadres qui achètent. Mm-hmm. Mais je confirme que post-Covid, on a eu un formidable mouvement sur les communes rurales de France, sur les 100 premières villes moyennes de France. On a pu constater que les prix avaient connu une très belle dynamique et les transactions avaient connu une dynamique également exceptionnelle. Donc, le mouvement ne se dément pas aujourd'hui. C'est peu que le coût de l'énergie et de l'essence influe peut-être différemment les choses, mais il ne se dément pas aujourd'hui, il reste dynamique et important.
Anaïs, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Anaïs.
Alors, moi, j'ai une question un petit peu très personnelle, hein, je suis désolée, mais voilà, j'ai signé une demande de prêt avec un préavis de vente à un taux à 1,30. Et je voulais savoir s'il pouvait augmenter ce taux entre la vente et l'après-vente, ou si à partir du moment où j'ai signé le 1,30, ce sera...
Vous avez signé un compromis, c'est ça? Vous avez signé votre compromis?
Ah ben, si le compromis est signé... Vous avez l'offre de prêt? Vous avez signé l'offre de prêt?
Il me faut 10 jours encore.
Eh ben, il faut y aller. Ouais. Allez-y. En revanche, il faut pas attendre parce que.
Mais ils me disent que je peux pas signer avant 10
jours. Non, c'est normal, ça c'est la loi. Mais effectivement, vous y allez au 11e jour. Voilà. Parce que effectivement, ça peut bouger derrière.
Anaïs,
ça peut bouger.
Faites le siège de votre banque.
11e jour, non mais c'est la loi. Après, il y a des délais légaux, c'est normal. Mais
alors, j'imagine que ça va pas bouger en 10 jours quand même. On va essayer de rassurer Anaïs, honnêtement.
Il est bloqué pendant ces 10 jours. Voilà. Mais les comités de taux aujourd'hui, ce qu'on appelle des comités de taux, normalement, c'est entre le 25 et le 30 du mois. Là, il n'est pas rare qu'on entende parler de comités de taux qui ont lieu en milieu de mois.
Sérieusement, non, parce que on va rassurer Anaïs, elle y va.
Oui, mais non, elle a son offre de prêt.
Mais est-ce que ça veut dire sérieusement que en l'espace de 15 jours, ça peut bouger comme ça? On peut avoir une mauvaise surprise de ce genre-là si
pas, pas elle, parce qu'elle a son offre de prêt, elle peut la renvoyer. Mais effectivement, vous avez des offres de prêt, elles sont pas... Fut un temps, on avait une offre de prêt, on pouvait la regarder un peu ailleurs en se disant, de toute façon, j'ai peut-être trouvé plus bas. C'est pas ce qu'il faut faire aujourd'hui. Faut signer, si on a une offre, surtout à 1,30.
Allez, signer. Antoine est promoteur immobilier, voici ce qu'il nous dit. Il veut partager son sentiment sur la tendance du marché. Je pense qu'il y a deux effets néfastes. Et il est promoteur, donc on est dans le neuf, en fait, c'est là que ça devient intéressant. Il y a les taux d'intérêt, effectivement, et aussi les coûts de construction de matériaux, à cause de la guerre en Ukraine. Est-ce que ça joue, déjà, dans la construction du neuf?
Alors, dans le neuf, il y a plusieurs choses qui jouent, mais effectivement, le coût des matériaux, et c'est vrai aussi pour la rénovation énergétique qui s'annonce, et puis pour les promoteurs, il y a la nouvelle réglementation thermique 2020. Ouais. Et donc, en réalité, tout concourt effectivement à avoir une augmentation des coûts de construction, comme derrière des coûts de rénovation. C'est tellement vrai que la Fédération française du bâtiment vient de nous alerter sur le fait qu'aujourd'hui, en copropriété, ils ne seront plus capables de fournir des devis à coût ferme pendant très longtemps. Donc ça nous pose d'ailleurs un problème, et on peut comprendre tout cela, mais ça nous pose un problème. Donc, encore une fois, dans la solvabilisation globale de nos acquéreurs, il y a cet aspect des choses qui va compter très prochainement, parce que on a à peu près 40% des ventes en France qui donnent lieu à des travaux derrière.
Vous avez raison, la rénovation c'est important, parce qu'effectivement, si vous avez fait des travaux très récemment chez vous, l'entrepreneur vous dit, mes péris sont garantis 15 jours. Mm-hmm. Après, je peux pas, et c'est pas de la mauvaise volonté, c'est que les matériaux augmentent.
Edgar est là, bonsoir Edgar.
Oui, bonsoir, j'avais une question pour vous. Je voulais savoir, sachant que si les taux augmentent, les prix baissent, ce serait pas une option très intéressante pour les particuliers d'emprunter à un taux plus élevé sur le long terme, pour pouvoir ensuite éventuellement renégocier ce taux-là Et car comme on le sait, les taux peuvent être renégociés, mais pas les prix. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, effectivement, alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de Français qui ont eu ce pari très agréable, qui ont acheté il y a 10 ans, puis qui ont profité de la baisse des taux en renégociant leurs taux. Maintenant, est-ce qu'on va sur une hausse un peu rapide, ponctuelle, et puis qu'on va à nouveau des taux plus bas ? En fait, c'est un peu ce qu'on a connu précédemment, les taux à 1%, qui était un peu anormal.
Donc ça redescendra pas. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a peu de chances pour que ça redescende.
Et encore une fois, le parallélisme entre hausse de taux, baisse des prix n'est pas aussi automatique. Donc ça dépend des biens, ça dépend des villes. On voit bien, on a déjà eu 3 exemples différents. Donc c'est un pari qui, à mon avis, est un peu risqué pour l'avenir.
On peut compléter par une caractéristique du marché français. C'est que on emprunte à taux fixe en France. Ouais. Le risque de taux, il est sur la banque. Il n'est pas sur l'emprunteur qui aurait des taux variables. Et ça, c'est très important. Ouais. C'est une grande caractéristique et ça participe de la sécurisation globale de nos acquéreurs.
Enfin, si les gens vous entendent plaindre les banques, ils vont dire il n'en est pas question.
Il n'a pas peur. Il a dit c'était eux qui prenaient le risque.
Non, c'est eux qui prennent le risque. Hein, voilà, c'est tout ce que je dis.
Et justement, Louise, tiens, sur l'appli France Inter, nous dit ceci. Bonjour, j'ai des économies, mais je n'ai pas de CDI. Impossible d'emprunter donc pour moi, alors que de plus en plus, nous allons tous travailler, aller vers du freelance et vers du CDI, alors comment faire ? Et vers du CDD, pardon. Alors comment faire ? Et on a l'impression, j'ai l'impression que cette question, elle est posée à chaque fois.
Ah oui,
et tant mieux si elle est posée, parce que le changement de paradigme, comme on dit aujourd'hui, oui, chez les banques.
Au moment où on se parle, c'est pas comme quand on se parlait il y a 3 ans. Aujourd'hui, on a le chômage qui baisse, on a beaucoup d'entreprises qui cherchent à embaucher et qui ne trouvent pas. Les nouveaux modes de travail, même les freelances qui ont de la régularité, ils peuvent emprunter. Je pense que c'est effectivement, encore une fois, il y a deux trois ans, enfin c'est clairement avant le Covid, quand on était en CDD, quand on était freelance, c'était plus compliqué. Aujourd'hui, le marché de l'emploi est tel, et on peut que s'en féliciter, que globalement, si vous avez une régularité de revenus, quel que soit le type de contrat, vous passez en banque.
Ça veut dire qu'il faut que Louise aille faire jouer la concurrence à Mont.
Bien sûr. Le plus compliqué, c'est, pour être très clair, c'est le CDD qui serait, par exemple, un remplacement de congé maternité. Bon, bah celui-là, il a une date de fin, mais si on est en CDD et que derrière, dans une boîte qui va embaucher, on voit tous les secteurs. Enfin, franchement, on est la menace sur l'emploi qui était il y a quelques années vraiment, vraiment très, 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 très importante. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins. C'est même plutôt le contraire. Les gens ne trouvent pas embaucher. Donc.
Est-ce que cette situation de hausse et donc cette fragilité fait revenir les courtiers en force aussi ? Non pas qu'ils aient jamais disparu, mais subitement il y a une pardon.
Nous l'avons jamais
absolument. Mais il fut une époque qui n'est pas si lointaine où au fond les taux étaient bas, ils étaient bas pour tout le monde. Là, est-ce qu'on recommence à rentrer effectivement dans quelque chose de très concurrentiel entre les banques ? Ce qui joue pour votre crèmerie à vous.
Il y a plusieurs éléments. C'est que il y a quelque chose dont on n'a pas parlé effectivement qui s'appelle le taux d'usure, excusez-moi, ouais, et qui effectivement est calculé.
Réexpliquez-nous comment ça se calcule.
En fait, c'est le taux maximum auquel vous pouvez emprunter, mais tout inclus. Donc ça veut dire qu'on
avec l'assurance
avec la garantie, les éventuels frais. Et aujourd'hui, c'est assez paradoxal. Il est basé sur les taux d'il y a 3 mois. Donc en fait, là, on est sur une base de taux qui est autour de 1%, et on a par exemple un taux d'usure sur 20-25 ans qui ne peut pas dépasser, je ne vais pas dire de bêtises,
2,43,
oui, quelque chose comme ça. Et là-dedans, vous devez tout mettre. Alors, ça paraît énorme quand on dit ça comme ça, sauf que vous mettez une assurance, 2 assurances, et vous n'y êtes pas. Donc, aujourd'hui, on a des dossiers qui sont rejetés juste parce que taux d'usure dépassé. Et effectivement, c'est
l'inertie de la...
Ouais. Voilà. Et le problème, c'est que si cette formule de taux d'usure, qui a été calculée, rappelons-le, quand les taux étaient beaucoup plus élevés, en fait, c'est une marge de 30%. Donc, quand on a une base à 1%, c'est pas pareil quand on a une base à 4%. Forcément, même si on est très doué en maths, on y arrive. Et du coup, aujourd'hui, on a des dossiers qui sont bloqués, mais parce qu'ils dépassent de 0,02 le taux d'usure, et ils passent pas.
Nadine est avec nous. Bonsoir Nadine.
Bonsoir, merci pour votre émission et merci de me prendre à l'antenne. Je voudrais poser une question qui pour moi reste quand même assez importante. Voyez-vous, le 1er juin, le gouvernement a voté une loi pour que les banques ne demandent plus de dossiers médicaux pour obtenir un prêt en dessous de 200 000 euros. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il en est exactement de ce questionnaire de santé. Est-ce que ça va être aussi simple que ça ? Ou est-ce que on n'aura plus besoin de questionnaires de santé pour tous les gens malades et souffrant de handicap ? Ou alors est-ce que, les banques ne vont pas essayer de contre-tourner cette action ?
Il y a les visites médicales passées 50 ans d'ailleurs, et sur les 200 000 euros, il y a aussi le droit à l'oubli. Il y a plusieurs choses aussi.
C'est ça. Et surtout, c'est 200 000 par tête. Hein, donc exactement. Ça veut dire que ça monte jusqu'à 400 en fait. Hein,
donc allons-y là-dessus. Le droit à l'oubli, on est d'accord qu'il est passé de 10 à 5
oui,
ans.
Oui, c'est ça. Et alors, le gros progrès de...
Le droit à l'oubli, pour ceux qui nous écoutent, pardon, on a eu un cancer par exemple. Autrefois, on ne pouvait pas emprunter avant 10 ans après.
Ouais, il va passer à, ça va
être
passer à
considéré 5. Comme guéri. Désormais, c'est passé à
vous
5.
Vous n'êtes plus obligé de déclarer.
Voilà.
Ce qui est vrai, c'est que sur cette assurance,
et la visite médicale à 200 000 alors, ouais.
Ah non, il y a plus. Alors moi, je suis
quel que soit l'âge.
Non, quel que soit l'âge, okay. C'est le montant qui compte. Moi, je suis extrêmement prudente sur ça parce que on sait déjà que la tarification d'assurance, c'est quand même quelque chose d'assez précis, que il y a quand même de grandes chances que ceux qui payaient très peu cher parce qu'ils avaient un faible risque compensent un peu quand même les baisses. Donc il y a du très bon là-dedans, mais il faut encore une fois être assez vigilant parce que je pense qu'on va quand même vers une hausse des tarifs finalement, puisque il est bien évident que quand vous avez 50 ans et que vous avez des antécédents,
une hausse du tarif de l'assurance, vous voulez dire,
oui,
de l'assurance
du prêt,
en fait.
Oui, tout à fait, parce que on va plus tarifer du tout le risque.
C'est-à-dire que le principe, c'est de sortir de l'individualisation du risque pour finalement essayer de le mutualiser sur la masse. Donc voilà,
en clair, aujourd'hui, quand vous êtes très jeune en bonne santé, enfin, c'est même principe en voiture. Hein, si vous achetez une Clio, c'est la même chose que vous achetez une Porsche, vous n'êtes pas assuré pareil. Ben, quand vous avez 55 ans, c'est pas la même chose que quand vous en avez 30. Donc, on sait qu'on a des pathologies, des gens qui ne peuvent pas s'assurer aujourd'hui et qui vont emprunter 180 000 euros parce qu'ils passeront comme ça sous les radars.
Voilà, donc, vous êtes en train de nous expliquer que, en fait, non, il n'y a plus de questionnaire médical, mais de toute façon, les assurances, en regardant votre date de naissance, vont augmenter.
Non, pas du tout. Je dis juste qu'il va falloir que comme elles ne pourront plus rien identifier sur une pathologie sous inférieure à 400 000 pour un couple, c'est quand même assez gros. Ça veut dire que il va falloir compenser. Donc les plus jeunes en très très bonne santé qui payaient très peu cher, il va falloir qu'ils compensent un peu. C'est la mutualisation du risque.
Voilà, ce risque individuel finalement, il va être de la part des assureurs apprécié sur la globalité de leur délivrance de garantie, et finalement quelque part chacun va payer un tout petit peu du surcroît de risque.
Bonsoir Christine.
Bonsoir.
On vous écoute Christine.
Non, je voulais juste une petite remarque parce que les discussions concernant les taux à 1,5-2% me faisaient sourire parce qu'à l'époque, quand mon mari et moi nous avons acheté notre appartement en 1970, évidemment, c'est pas aujourd'hui, nous avions bénéficié d'un taux réservé aux employés de la banque parce que mon père soignait lundi directeur et notre taux était de 8%. Ce qui veut dire qu'à l'époque, les taux normaux étaient dans les 10-11%. Donc là, ça me paraît tellement bas ça me fait sourire.
Eh ben, je comprends que vous souriez, Christine, et en même temps, tant mieux.
C'est en rapport avec l'inflation. Ouais. C'est pour ça que vous disiez à juste titre que aujourd'hui, quelqu'un qui emprunte et qui signe un prêt à taux fixe, même à 1,60 sur 20 ans, comme l'inflation est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire proche des, elle devrait être même à 7 si on n'avait pas.
Elle est à 5,5.
En fait, vous empruntez à taux négatif. Donc, et effectivement, madame le dit. Moi, j'ai mes parents, c'est la même chose. Ils me disent, on empruntait à 13, et en fait, on remboursait en 3 ans parce qu'il y avait une inflation galopante. En face. Il y a toujours un rapport avec l'inflation. Aujourd'hui, emprunter même à 1,60 avec l'inflation telle qu'on la connaît, c'est emprunter à taux négatif. Mais il faut toujours le rapprocher de l'inflation.
Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'emprunter à ces taux-là avec une période d'inflation, c'est vraiment une bonne affaire.
Oui, c'est une bonne affaire, exactement. Emprunter, qui disait. Bonsoir Marie.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Marie.
Moi, je voudrais vous poser une question toute simple. J'ai fait des économies en vue d'acheter un appartement assez important. Et pour le moment, j'ai un peu plus de 200 000 euros de côté. Et je me demande, est-ce que j'aurais pas intérêt à acheter le plus vite possible pour ne pas voir mes économies fondre au soleil?
Par contre, vous empruntez, vous mettez le moins possible dans l'achat immobilier parce que, comme on vient de le dire, emprunter aujourd'hui, qui s'endette s'enrichit, hein, et ça reste encore plus vrai quand vous avez une inflation au-dessus de 5 et un taux à moins de 2. Donc, les 200 000, si vous n'avez pas besoin de les mettre pour acheter le bien qui est de vos rêves, gardez-en le plus possible parce que vous allez, encore une fois, bénéficier de taux très bas et en plus de la couverture qui va avec, à savoir quand même l'assurance emprunteur, qui est quand même la meilleure des assurances vie, parce que si jamais il vous arrive un pépin, de santé, vous travaillez, vous pouvez travailler, ou même pour vos héritiers, le bien, il est payé. Donc, ne mettez pas tout votre cash. Surtout, ne mettez pas tout votre cash.
Voilà. Alors, je vais nuancer un tout petit peu.
Allez-y, nuancez.
Je vais nuancer un tout petit peu parce que justement, c'est un vrai dilemme et c'est le dilemme de nos clients aujourd'hui. J'ai 200 000 en banque. Quand j'ai une inflation à 5%, je perds 10 000 euros par an. En 10 ans, j'en aurais perdu la moitié. Mmh. Qu'est-ce que je fais? Je peux comprendre la question, effectivement. Et donc, évidemment, les taux d'intérêt sont attractifs. Donc, le levier du prêt, c'est ce que vous expliquez, peut être intéressant. Et il faut toujours garder un petit peu de liquidité.
Et la meilleure assurance vie, c'est l'assurance emprunteur.
Mais au fond, placer cet argent dans son immobilier aujourd'hui et le payer cash, ce sont des réflexes que l'on voit très souvent, en ce moment. Ouais, très souvent.
Alors moi, je ne les conseille pas du tout,
tellement rassurant.
Mais en réalité, parce que, au fond, c'est le fait de placer, plutôt que d'avoir comme support un livret bancaire, comme support, j'ai mon immobilier. Alors, avec une nuance quand même, c'est qu'il est beaucoup moins liquide. Mais on voit très très nettement aujourd'hui un mouvement de flux d'épargne en direction de l'immobilier, plus conséquent en termes d'apport, parce que c'est ce réflexe anti-inflation. Je suis d'accord
avec vous. Parce que les banques forcent aussi un peu à ce que vous libériez votre épargne quand vous en avez.
Bah non, parce qu'elles ont intérêt peut-être à le garder. Donc, il y a un levier de prêt qui reste toujours déterminant à ces taux-là, mais je peux comprendre que l'immobilier, encore une fois, c'est un vrai refuge de l'épargne.
Mais voilà, et on en voit, effectivement, vous le disiez, on en voit beaucoup. C'est comme ça, d'ailleurs, que ça rend la négociation difficile, aujourd'hui dans l'immobilier. Non, si quelqu'un arrive derrière vous, avec la somme quasiment cash, vous pouvez toujours essayer.
Alors,
mais,
moi,
vous la perdrez, cette bataille-là, non ?
Je pense quand même que les personnes les plus aisées ne mettent pas leur cash dans l'immobilier. Mmh. Ils empruntent. Hein. Ils gardent cette somme, ils la placent quand même, parce qu'il y a quand même des placements qui sont encore un peu rentables. Et encore une fois, aujourd'hui, vous qui s'endette s'enrichit. Hein. Donc c'est quand même dommage de ne pas le faire. Et franchement, je pense qu'il faut que c'est vraiment... Quand vous avez des taux inférieurs à 2 et une inflation à 5, même un peu plus, si on était au réel, vous allez gagner de l'argent. Donc il y a des solutions de placement.
Ne pas en perdre, on va plutôt dire comme ça. Ne pas en perdre.
Mais en gagner.
Eh bien, écoutez, vous reviendrez nous en parler quand ça aura réaugmenté la semaine prochaine.
Ah, oui.
Merci beaucoup à vous deux.
Merci
à tous pour vos nombreuses questions. À bientôt.